à la Halle des Expositions à 18h30. À très bientôt.
Tous les jours, à partir de 11h,
l'absus du matin,
le fou
et
du roi,
Stéphane Bern.
Oui, et vous n'avez pas envie de la connaître non plus.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Richard Bohringer et Nicole Masson, rendez-vous demain mercredi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
C'est bien travaillé.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
15h04, l'heure de là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Laurent Wauquiez, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Laurent Wauquiez, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez, nous voilà.
Dimanche soir, j'ai regardé un documentaire sur la Troie, consacré au 10 mai 1981. Et alors j'en ai retenu une anecdote, outre une énorme bourde d'un type qui s'appelle Alain Minck et qui se présentait comme un proche de Mendès France à l'époque, où enfin il se trouvait dans l'entourage de Mendès France. Il a témoigné sur le fait que Mendès France s'était réjoui de cette victoire, quoi qu'il eût toutes les raisons de ne pas le faire, puisque Mitterrand était son adversaire au sein de la SFIO, et parce que lui-même n'avait obtenu que 5% des voix à la présidentielle de 1969. J'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Un type qui, je crois, qui est conseiller du président de la République actuelle et qui raconte, sans que les auteurs du documentaire corrigent par un surtitrage, qui nous raconte que Mendès France a eu 5% à l'élection présidentielle de 1969, alors que je pense que la plupart des gens savent que Mendès France n'a jamais été candidat à la présidentielle. C'est Defer qui représentait la SFIO en 1969. J'ai retenu une petite anecdote. Daniel Mitterrand, soudain, s'est ému pour les 5 condamnés à mort qui attendaient dans les prisons françaises et qui allaient être sauvés grâce à l'élection de François Mitterrand. Et alors je me suis dit, finalement, avec le recul, le 10 mai 1981, il aura changé la vie de 5 condamnés à mort. Et il aura quasiment pas changé la vie des condamnés à vivre. C'est curieux, quoi. Enfin, bon, ça valait peut-être la peine pour 5 condamnés à mort.
Bonjour, Fabrice de Limoges. Une petite remarque, Daniel, à l'intention des auditeurs de France Inter qui pourraient éventuellement avoir la mémoire courte, mais ça m'étonnerait. On parle beaucoup en ce moment d'un dénommé Dominique Strauss-Kahn, un pseudo-socialiste milliardaire qui, paraît-il, aurait des idées géniales. Est-ce que les gens se rappellent, il y a une dizaine d'années, d'une petite invention diabolique qui s'appelle le revenu fiscal de référence, que vous avez tous maintenant sur vos feuilles d'impôt? Le revenu fiscal de référence, pondu par Dominique Strauss-Kahn à l'époque de Lionel Jospin, a permis, par un tour de passe-passe comptable, de faire payer la taxe d'habitation aux pauvres qui, jusque-là, ne la payaient pas. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui, grosso modo, touchaient le SMIC étaient exonérés de taxes d'habitation. Et grâce à Dominique Strauss-Kahn, grand socialiste défenseur des pauvres, on a créé le revenu fiscal de référence qui, par un petit tour de passe-passe, permet maintenant de faire payer la taxe d'habitation à tout le monde et en priorité aux pauvres. Bravo, merci la gauche, merci Dominique Strauss-Kahn. Au revoir Daniel.
Bonjour Daniel, voilà que les Syriens, gouvernés par les lois de l'état d'urgence, et après 46 ans de dictature, se mettent à croire, eux aussi, au printemps arabe. Voilà leurs manifestations pacifiques réprimées dans le sang. Les chars du dictateur tirent sur les manifestants désarmés, sauf de leur volonté à redevenir libres. Les forces du régime assiègent plusieurs villes, bombardent des maisons, et plus de 800 manifestants sont tués par balles. Des milliers d'arrestations. Les seules armes que les manifestants possèdent, c'est leur cri et chant pour la liberté, espérant retrouver leur humanité et dignité après des décennies de répression et d'arrestation et de privation de liberté. Merci Daniel pour ton émission que j'écoute depuis des années. Merci.
Merci pour ce reportage d'aujourd'hui lundi. Daniel, tu as dit au cours de cette émission, la sortie du nucléaire, ce n'est pas la fin du capitalisme. Bien évidemment, je ne doute pas une seule seconde que des centaines de capitalistes sont en train de s'intéresser, et c'est pas nouveau, aux éoliennes, aux photovoltaïques, à la biomasse. On en a des exemples tout près de chez nous. Mais ce qui m'intéresserait, c'est cette centrale dont tu nous as parlé qui a été mise à l'arrêt, qui ne va donc plus rien rapporter. Imaginons le scénario plausible de centaines, de cinquantaines de centrales à travers le monde mises à l'arrêt, voire pour quelques-unes d'entre elles démantelées, comme ce serait absolument nécessaire, ne serait-ce qu'en France pour les plus anciennes. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Ça, c'est la question essentielle, parce que il va falloir les entretenir, les surveiller, et ça ne rapportera plus rien, puisque ça ne va plus générer d'électricité, de production d'électricité, bon marché ou très cher dans un avenir probable. Donc c'est là que je vois, moi, une sortie du capitalisme pas du tout réjouissante, d'ailleurs, même si je me réjouis intrinsèquement, quoi qu'il arrive, de cette éventualité. Ça va coûter des milliards, hein, on le sait. D'où viendra l'argent ? Comment financer la maintenance ? Le nucléaire a toujours été traité sur le plan de l'irrationnel. Moi, je suis une vieille militante anti-nucléaire, j'ai manifesté contre Fessenheim, ça fait 40 ans maintenant. Hein. Bon, j'ai l'âge de ce monsieur-là du Japon, et je voudrais bien qu'on commence à réfléchir à l'aspect économique de tout cela et à ce que ça représente pour un changement de société inévitable, en dehors même des dangers que représentent les centrales nucléaires pour nous tous.
Ouais, salut à tous. Ben, ce week-end, on sera sur le plateau d'Aiguillière. On montera avec les gens du repère de Montauroux. Il y aura aussi des gens du repère de Grasse, de Nice, d'Aix, Marseille et peut-être d'autres repères. Plus tous les gens qu'on a hâte de rencontrer, qu'on connaît pas et qui composent les différents repères autour d'Annecy et du plateau d'Aiguillière. On sera là-bas pour tchatcher, pour écouter surtout, beaucoup entendre de paroles et créer ensemble de nouvelles résistances. Ciao, vive. Portez-vous bien.
Voilà, et ben c'est exactement ce qu'on va faire. Samedi et dimanche prochain, donc rendez-vous sur le plateau d'Aiguillière dimanche matin à 10h30 et samedi toute la journée il y a des débats, des rencontres et le soir donc il y aura le repère des repères. Alors à Toranglière, ça s'écrit Torrens mais ça se prononce Toranglière, c'est à côté d'Annecy, à une vingtaine de minutes, je crois, 20 minutes, une demi-heure d'Annecy. Et alors, les organisateurs là ont prévu un truc, c'est que au terme de cette soirée où dormir, eh bien, ils ont prévu des couchages possibles pour ceux qui viendront, les AMG, les amis, tous ceux qui viendront, dans un internat, dans un lycée, à quelques kilomètres de là, de l'endroit où nous réunirons ce samedi soir, donc sous chapiteau, dans une grande salle. Alors, si vous voulez dormir sur place, il faut que vous envoyez un mail à l'adresse suivante, là-bas au Glière, tout attaché, hein, là-bas, au Glière, là-bas de là-bas, si j'y suis, au pluriel, AUX, Glière, avec un S, @gmail.com, là-bas au Glière, @gmail.com, pour dire nous serons temps à dormir. Je crois qu'il y a 300 places, 200 ou 300 places dans ce dortoir, donc voilà, nous dormirons et surtout nous prendrons le petit, il y aura un car qui vous emmènera jusque là sur une vingtaine de kilomètres, je serai gai comme tout, je rentrerai en car comme à la colo et là il faudra donner un petit peu de sous pour l'essence. Évidemment, de l'autocar, vous savez que tout le plateau d'Aiguillière, c'est organisé par des bénévoles et tout. Bon. Alors, voilà, je vous répète, là-bas au Glière, et on se retrouve donc samedi soir pour le premier repère des repères de la Basse. Si j'y suis, on aura des invités, je vous en reparlerai. Alors là, on parle de résistance, ben ça tombe très bien parce qu'on va dans un endroit aujourd'hui au Japon où le mot résistance a vraiment tout son sens puisque les habitants, les 400 habitants de cette toute petite île d'Iwajima, 400 ils sont, eh bien résistent depuis 29 ans, ils résistent à la construction d'une centrale nucléaire dans leur paysage. C'est une lutte extraordinaire, ils arrivent à tenir depuis aussi longtemps, et bien sûr que la catastrophe de Fukushima et toute l'effervescence actuellement au Japon fait d'eux des stars. Enfin, ça durera peut-être pas longtemps, mais qui sait. En tous les cas, ça valait le coup d'aller voir ces irréductibles, et je crois de passer cette heure avec eux. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Putain, on n'a même plus le droit d'être pauvre.
Manifestation des sages-femmes le 12 mai 2011, départ devant Port-Royal à 11h, direction rue de Grenelle. Pique-nique, demande d'entretien avec Monsieur Xavier Bertrand pour une naissance humaine. Contre la dégradation du système de soins périnataux. Merci.
Je voudrais dire à M. Vauquier que je ne suis pas révoltée par rapport au RSA. Cela a permis sans doute à des pauvres gens de ne pas couler complètement. Ce qui me révolte, c'est les indemnités de M. Vauquier et des sénateurs, des députés. Ce qui me révolte, c'est le doublement du salaire du président, l'avion du président. Combien de RSA ? 1000 ? 10 000 ? 100 000 ? Quelle indécence, Monsieur Vauquier, quelle indécence !
Bonjour à tous, je viens d'entendre une publicité sur France Inter pour Malakoff Médéric. Donc maintenant, le service public fait de la publicité pour le frère du président de la République. Voilà, je ne suis pas contente du tout, bien sûr. Au revoir, c'était Carole en Bourgogne, au revoir.
Alors là, on est vraiment au Japon. On est vraiment au Japon. Il y a une odeur formidable. Et ça, c'est des algues qui sont en train de sécher.
Après la récolte, on met dans l'eau chaude une fois et puis on laisse sécher après.
Alors il y a ça, il y a les algues qui sont en train de sécher là, mais il y a aussi ce dispositif de digue assez haute quand même, hein, contre les tempêtes et les tsunamis. Et là il y a ces trucs épouvantables, des espèces de tripodes de béton entassés là, qui sont destinés à briser les vagues. Est-ce que le tsunami arrive jusqu'ici ?
Ces digues sont contre la tempête.
Les typhons.
Les typhons.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil. Fukushima, Hiroshima, dans un Japon qui doute.
Flight number 2, arriving from
Tokyo. C'est vraiment un tout petit village tout tranquille avec des petites maisons basses. Il y a à peine une route, là on voit un monsieur, un pêcheur qui passe sur son vélo. Un papy d'ailleurs, et il s'incline en même temps qu'il pédale. Il fait très beau. Il y a des coquelicots qui poussent sur les bas-côtés. C'est juste quelques maisons. C'est sur une île très escarpée qui arrive vraiment presque à pic dans la mer. Et les maisons sont accrochées comme ça à flanc de coteau. Et on arrive sur le petit port où il y a plein de petits bateaux de pêche. Tout petits.
Ah, voici un panneau. Nous sommes absolument contre l'implantation de la centrale nucléaire.
Comment ça se dit ?
Genpatsu zettai hantai.
Genpatsu zettai hantai.
Là, c'est le port. C'est vrai que c'est des tout petits bateaux de pêche. Il n'y a pas du tout de tourisme. Il n'y a pas de yacht. Il n'y a pas de plaisance, là. C'est que leur petit bateau à eux. les gars, ils défendent bel et bien un mode de vie, une façon de vivre, tout simplement, hein.
Ah, voilà notre petite dame. Voilà. Vous avez vu, elles ont le petit chapeau.
Voilà, voilà les antinucléaires. Voilà les antinucléaires.
Les Grunen.
Voilà les Grunen.
C'est la cantine des habitants, donc.
Ça, c'est la petite auberge.
Entrez, entrez. Voilà, on partage même table, hein, désolé.
Oui. Ah ouais, ça, le petit bruit, c'est le Japon. C'est le Japon. C'est les nouilles. C'est la façon dont on mange les nouilles. Au Japon, sushi, kimono, etc. Il y a aussi la façon de manger les nouilles au Japon. C'est dommage parce que je voulais commencer avec quelque chose de très joli, très, très japonais. Si vous cherchez la source du fleuve Yoshino, vous la trouverez dans les gouttes d'eau sur la mousse. Superbe, non? Si vous cherchez la source du fleuve Yoshino, vous la trouverez dans les gouttes d'eau sur la mousse. Là, on se trouve plus dans le Japon des estampes, dans le Japon des vieux dessins d'Hiroshige ou d'Okusai, les brumes, les lointains. On est à 80 km à l'ouest d'Hiroshima, Kaminoseki ou Iwaishima, une toute petite île, et on va là d'île en île, c'est comme une mer intérieure. C'est formidable, on nous dit qu'il y a des baleines blanches, des petites baleines blanches, on regarde partout, évidemment, on les voit pas, mais enfin, on fait confiance à ceux qui vivent là depuis fort longtemps, et qui, de génération en génération, vivent de la pêche, et vivent tout à fait tranquillement, en vieillissant, c'est vrai, mais ça, c'est comme tout le Japon. Qu'est-ce qui nous amène ici ? Des irréductibles. Ils sont absolument irréductibles, je vous le disais en commençant, les habitants de cette petite île d'Iwaishima, depuis 29 ans, se battent et s'opposent à la construction d'une centrale en face de chez eux. Ils n'en veulent pas et ils ont réussi à tenir jusque-là. Mais c'est toujours pas gagné parce que la société d'électricité du coin, même si c'est un parc naturel, a prévu la construction de deux réacteurs. Le début des travaux est prévu pour le premier réacteur à 2018 et le deuxième réacteur 2022. Ça, c'était avant la catastrophe. Et aujourd'hui, il y a tout ce mouvement, ces suspensions, ces arrêts. Est-ce qu'il s'agit de mesures pour repousser, et comme on a l'habitude de le faire un peu partout, pour repousser, pour attendre, pour que les opposants s'essoufflent, ou bien est-ce que c'est vraiment un basculement par rapport au nucléaire ? Personne ne peut, je crois, le dire pour l'instant. Là, les dernières nouvelles du front sont quand même assez intéressantes. La TEPCO, dont nous parlons souvent, si souvent, Tokyo Electric Power, l'opérateur de la centrale de Fukushima, a officiellement, hier, demandé l'aide de l'État pour faire face aux charges financières que représente la catastrophe. Alors, demande auprès du ministère de l'économie, le METI, M-E-T-I, qui est la concentration de tout le business, les grandes sociétés japonaises, et qui tient complètement le Japon. Le Japon, c'est ça. C'est ce ministère de l'économie et de l'industrie, et qui est vraiment ce qui tient le Japon. Donc, TEPCO demande de l'argent à l'État. Alors on se dit, ben, pourquoi l'État? Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas de l'argent à des organismes financiers? Et la réponse est très simple, c'est que les organismes financiers, il faut les rembourser, alors que l'État, ben, c'est les citoyens qui payent. Donc là, dans le cas de TEPCO, c'est too big to fail. Vous savez, il faut grossir. Vous avez une très très grosse entreprise, et évidemment, elle peut jamais, aucun problème. Quand elle est en difficulté, eh bien, c'est l'État qui paye, c'est les contribuables qui payent, c'est ce qui se passe avec le règlement de la crise financière à travers, de la finance à travers le monde, c'est le Pékin, c'est vous, c'est moi qui payons. C'est exactement ce qui est en train de se passer au Japon avec cette entreprise qui dit, ah mais si ça continue, il n'y aura pas d'électricité à Tokyo, 35 millions d'habitants, alors évidemment, bon, l'État va payer, les amis de l'État vont payer. C'est une petite nouvelle qui donne peut-être un peu quelques raisons à ces irréductibles habitants de cette petite île d'Iwaishima auquel je dédie quand même ce joli petit poème. Si vous cherchez la source du fleuve Lyostino, vous la trouverez dans les gouttes d'eau sur la mousse. C'est là-bas si j'y suis. Jusqu'à 16h sur France Inter. Voilà la carte.
Alors la ville de Kaminoseki, c'est ici et là et celle-ci.
Kaminoseki, où nous sommes, c'est trois îles. On est sur une des îles qui s'appelle Iwaishima, une île en forme de cœur, c'est tout à fait mignon et très beau. Si on fait le tour de l'île, ça fait 12 kilomètres. Et vous êtes combien d'habitants?
Actuellement, on compte 500 habitants. Donc, la plupart d'habitants travaillent dans l'agriculture et aussi dans la pêche, mais on compte aussi beaucoup de retraités parce que la population est assez vieillie.
Assez vieillie, la population. En effet, en arrivant, on voit de charmants vieillards, plutôt des vieilles dames d'ailleurs, presque uniquement des vieilles dames, tout à fait souriantes, tout à fait charmantes, sur le quai de débarquement de cette île, absolument pas touristique. On voit pas de bateaux de plaisance, non, des bateaux de pêche, et on arrive là, en passant d'île en île, je le disais, en commençant à 81 kilomètres d'Hiroshima, et c'est vraiment un endroit tout à fait charmant. C'est important de dire ce mot Hiroshima, 80 kilomètres d'Hiroshima. C'est la ville, maintenant c'est une ville moderne, mais c'est une ville importante, Hiroshima. Et bien sûr que ce mot Hiroshima, Nagasaki, ça dit quelque chose dans l'imaginaire et dans les fantasmes et dans les traumatismes japonais. Et ça n'est pas pour rien qu'on s'oppose à une centrale. Et on peut se demander d'ailleurs comment le nucléaire civil a pu être imposé à une population à ce point traumatisée par la bombe A qui a pété le 6 août 1945. On verra dans les reportages à venir l'étonnement des médecins l'étonnement des médecins survivants et qui essayaient de sauver les survivants. Leur étonnement devant des nouvelles pathologies qu'ils n'avaient absolument jamais vues. Ils pensaient que ça, cette manifestation-là, ça, c'était telle ou telle maladie, c'était tout telle ou telle. Eh bien, pas du tout. Et cette surprise extraordinaire est toujours présente au fond dans les esprits. Comment a-t-on pu faire, comment le lobby, la puissance du capitalisme japonais a pu faire pour imposer le nucléaire civil à cette population, les efforts de propagande, les efforts de persuasion, d'intimidation et d'opacité qu'il a fallu pour les persuader d'accepter ou de se résigner à cette énergie. C'est tout ça qui est en cause aujourd'hui dans ce pays. Ça ne sera pas sans conséquence dans le reste du monde, à commencer par le nôtre. Le nôtre, je parle de la France, pays très nucléarisé, comme vous savez. Et en tous les cas, ça n'est pas sans conséquence dans ce que nous disent ceux qui nous reçoivent. Yamato Sadaro, ça c'est vous. Là, ici, on est dans le bureau de votre association.
Ah, ここ島の人のほぼ9割の人が原発建設に反対してやってまして、そこの皆さんを阻止している団体の事務所になっています。
C'est le bureau de l'association des opposants de la centrale nucléaire et on compte 90% des habitants qui sont pour nous.
C'est-à-dire 90% des habitants font partie d'associations, vous soutiennent. Qui sont les 10% qui restent ?
ですから賛成になってる人がその予定地に多いのは土地を売る、それと漁業が中心なんで保証金をもらえるということで賛成する人がいる。で、いわゆる島の場合はもう目の前にできるし、漁業も形が違って保証金をいらないというか、島なので漁業をしなければ
Les sympathisants pour l'implantation, ils sont pour parce que c'est pour toucher les dédommagements. Voilà, à la fois pour la pêche et à la fois pour la vente des terrains. Et nous sommes opposés parce que la nouvelle centrale sera en face de chez nous. Et nous tenons à notre pêche et nous n'avons pas besoin de ces dédommagements.
D'accord, c'est une histoire formidable. C'est-à-dire, sur les trois îles au total, 70% des gens sont pour l'implantation parce qu'ils recevront des dédommagements pour la pêche. Ils seront obligés de suspendre leur activité de pêche, évidemment. Donc, ils recevront des dédommagements. Ensuite, ils pourront vendre leur terrain, évidemment, pour l'implantation de la centrale. En troisième lieu, il est bien possible que ça crée des emplois, alors que la population, on l'a vu, est vieillissante. Mais nos amis ici, eux, préfèrent protéger leur façon de vivre, leur façon de pêcher, et surtout, la centrale sera en face de leur île, sera là tout près, et voilà un peu la pomme de discorde. Et tout ça, ça dure depuis 30 ans.
So, ça, c'est de 29 ans.
Tout à fait, nous arrivons à la 29e année de conflit.
Vous entamez la 29e année de lutte contre l'implantation de cette centrale. Vous êtes minoritaire, vous êtes 400, ce qui est beaucoup, vous êtes 90% de la population, contre une puissance extraordinaire qui est le lobby pro-nucléaire et japonais. Alors expliquez-nous comment, depuis 28 ans, ce tout petit village gaulois, ce tout petit village japonais, arrive à tenir.
Ah,
Alors tout d'abord, nous manifestons chaque semaine dans l'île contre l'implantation de la centrale nucléaire. On compte maintenant plus de 1000 fois aujourd'hui.
ただ、この島が強いのは権利を持っている。漁業をする権利を持っていて、よその人たちはその保証金とお金もらったんだけど、それ一切拒否してます。だからそのお金が10億8000万、11億くらい。そのお金を島の人一切もらってない。
Alors, comment on fait pour tenir nous avons le droit communal pour exercer la pêche autour de l'île. Mmh. Donc, par rapport à des gens d'extérieur qui ont accepté de recevoir des dédommagements, comme nous refusons cet argent-là, on ne peut rien faire.
On ne peut rien faire contre vous.
C'est-à-dire que tant que vous acceptez pas l'argent, tant que vous acceptez pas de vous faire acheter, vous pouvez bloquer le processus.
Et それともう一つは、いろんな問題があったときに、みんなにすぐ集まってもらって、あの話をしてみんなお互いの理解が揃うようにすぐ集まりを持ちます。
Pour que nous puissions rester soudés dès qu'on a un problème, un tout petit problème, nous avons une réunion.
Mais je suppose qu'il peut y avoir des surenchères pour vous acheter depuis 28 ans. Moi, je serai du côté de la centrale, du côté de la société qui veut implanter cette centrale. Je vous achèterai, je remettrai de l'argent, je remettrai de l'argent. Comment vous faites pour tenir ?
あの、基本的にこういう田舎です。田舎だから、都会の人と同じ生活を求める必要ない。この田舎が好きな人が、いるからこの島が成り立っていってるし、それにはお金はいらない。
C'est un village ici, donc ne cherchons pas à avoir une vie moderne comme une grande ville. Nous sommes contents d'avoir ce qu'on a. Donc voilà, ça suffit.
Mais vous voulez pas des beaux ordinateurs, un beau bureau avec l'air conditionné, avec plein de secrétaires blondes.
そこに負けた人が新しくあの賛成派に変わるわけですが、それが数えるほどしかいない。
À partir du moment qu'on laisse tenter par la séduction de l'argent, on peut être racheté, mais on compte seulement vraiment quelques personnes parmi nous qui ont changé le camp, mais très peu de gens.
Vous êtes très vertueux, bravo, hein.
それが普通の生活でやってるから。
On s'entend très bien, donc pour nous c'est normal, c'est tout à fait normal.
On va vous dire la vérité. Nous, on est venus vous acheter.Dites-nous combien vous voulez.
Enfin, je vous répète, je préfère qu'on annule l'implantation plutôt qu'avoir de l'argent. Voilà, c'est pas ce qu'on cherche.
La raison pour laquelle on est là, c'est que le 11 mars 2011, la centrale de Fukushima a explosé avec tout ce qui s'ensuit, de radioactivité déversée dans l'air, dans la mer. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, personne ne contrôle la centrale de Fukushima. On s'habitue, c'est tout, hein, les habitants s'habituent. Mais qu'est-ce que l'explosion de Fukushima a changé pour vous ?
この島自体は別にもともと反対していたから、あの、恐れていたことが起こったなということですが、あの、今まで賛成してきとった町内の他の人たちが今まで絶対安全だと言われていたのに、おかしい。これは違うぞということで今動揺が始まっているという。
Peut-être les habitants de d'autres parties de la ville sont un petit peu bouleversés d'apprendre l'accident de Fukushima parce que ils pensaient que l'industrie était sécurisée. Donc ils se demandent, mais en ce qui concerne nos habitants, en fait, ils n'ont pas tellement de changement de position.
C'est-à-dire qu'évidemment, ici, à Iwashima, sur cette île-là, leur position n'a pas changé, au contraire. Mais l'ensemble des habitants des trois îles de Kaminoseki sont en train peut-être d'évoluer et de changer d'opinion.
そこまでまだ直感的な皆さん反応なんで、今からまた電力会社なり国の巻き返しがあると思うんで、楽観はしてないけども、今までみたいな一方的な政府の宣伝がそのまま浸透していくということはないと思う。
Je ne suis pas optimiste, vous savez, malgré les réactions des populations qui sont inquiets. Mais je pense que le gouvernement et la société d'électricité va essayer quand même de convaincre les habitants à nouveau quand l'accident sera oublié.
Vous n'êtes pas optimiste du tout.
Vous savez, nous avons 30 ans d'histoire, donc nous restons tout à fait vigilants malgré tout.
Dans la coquille, mon timide.
Voici la maison, le club des personnes âgées.
D'accord. Le club des personnes âgées, c'est l'endroit où il y a le plus de monde ici. Hein, étant donné qu'il y a une école sur 500 habitants, il y a 5 enfants à l'école sur 500 habitants.
Du coup, on enlève les chaussures. Hop, on rentre dans le petit coin. Konnichiwa. Konnichiwa. Il y a tout un tas de mamies qui sont là sur des tatamis. Agenouillés en train de se faire servir des petits bols de riz et des petits bols de soupe.
Ça, c'est très sympa.
C'est surtout des vieilles dames là, qui sont là tout sourire. Tu vois, là, il y a une petite dernière qui arrive un peu en retard, alors elle met vite ses chaussures à l'entrée sur les étagères et hop, elle va retrouver les copines.
Que des dames, que des dames. Alors vous êtes toutes nées ici, vous êtes toutes de Lille.
Oui, nous sommes tous nées ici.
Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez de la centrale en face, du projet de construction de cette centrale.
Nous sommes absolument contre, vous savez.
Elles font des signes avec leurs mains. Et pourquoi vous êtes contre? C'est bien une centrale, ça fait de l'électricité.
Nous sommes à la campagne où nous n'avons pas besoin de tellement d'électricité. Et puis toute la fabrication électrique, ça appartient en ville, voilà. Vous vous rendez compte, il n'y a que 3,5 km en face, c'est comme si avoir une centrale nucléaire dans son jardin. Et la mer sera polluée, les poissons seront pas consommables, vous vous rendez compte.
Donc, depuis 29 ans, vous luttez contre la construction de cette centrale. Et vous avez une manifestation tous les lundis. Est-ce que vous allez à la manifestation, vous, mesdames?
Moi, j'y vais. Mais la plupart des femmes qui sont ici aujourd'hui, elles ne sont pas capables d'y aller physiquement, elles sont fatiguées.
La catastrophe de Fukushima, est-ce que vous pensez que ça va quand même faire réfléchir et peut-être même suspendre la construction?
Oui, nous avons l'espoir. Nous espérons vraiment que l'opinion publique prenne position anti-nucléaire.
En tout cas, pour nous, les écolos, c'est toujours plutôt des jeunes, plutôt des barbus. Mais là, c'est des dames qui ont autour de 80, quoi. Hein, 80 minimum. Et qui sont des écologistes, en tous les cas des anti-nucléaires, farouches, et qui savent absolument pourquoi. Alors, une dernière question, on est très curieux. Est-ce qu'on peut vous demander vos âges aux unes et aux autres?
86.
Alors, j'ai 86 ans, je viens de l'avoir juste il n'y a pas longtemps. J'ai 90 ans. J'ai 89 ans. J'ai 85 ans. J'ai 83 ans. 84 ans.
Étonnant. On vous souhaite une longue vie et surtout jamais de centrale.
Merci beaucoup pour votre coopération. On compte sur vous aussi pour ça.
Arigato.
Là, on fait un petit tour du village là, avec les dames qui sont au soleil sur le port. Est calme et elle regarde dans l'eau les méduses et les chinchards. Ça va, mesdames? Et vous êtes bien au soleil, là, n'empêche. Hein? Est-ce que vous êtes pour la construction de la centrale, vous?
Je suis absolument contre.
Mais 100 kilos しか離れてない。
Vous vous rendez compte, il n'y a que 3 km hein, d'ici jusqu'à la terre de construction.
ここですよ、そこ。白いのが見えるでしょ、道みたいに作ってるじゃないですか。
C'est là-bas, c'est une espèce, vous voyez une espèce de terrain rasé. C'est là-bas. Si vous montez là, vous verrez.
Elle nous montre l'endroit. Ce serait là. La centrale serait là. Et ça fait 29 ans que ce petit village lutte contre l'implantation de la centrale là-bas sur l'autre île.
3,5 kilos.
3 kilomètres. Ouais,
c'est ça. Vous auriez accepté, vous seriez plus riche maintenant, hein?
しかし、それがいかに愚かなことかっていうことは、この福島原発の事故が証明したんじゃないですか？
Ça serait stupide. Et je pense que cela a été prouvé avec l'accident de Fukushima aujourd'hui.
それは、予定地の、大技っていうか、部落で次第っていうのがあるんですよ。種目としては次第なんです。
Il y avait un temple Shinto là-bas, dans la zone de construction d'une nouvelle centrale. La propriétaire de ce terrain était la communauté locale. Donc, naturellement, le prêtre de l'époque, le premier prêtre de ce temple Shinto a refusé de vendre ce terrain qui était indispensable pour la construction.
それで、その、宮司を、統括する神社長っていうのがあるんですよ。
Au-dessus du prêtre, il y a une espèce de église, comme à Rome. En fait, toute hiérarchie d'organisation religieuse japonais a décidé de renvoyer ce prêtre qui était opposant. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre, naturellement.
Ils l'ont remplacé par un autre.
Voilà, qui est partant pour la construction.
Et du
coup, ils ont réussi à acheter ce terrain.
Quelle puissance, hein? Quelle puissance ce lobby et quel héroïsme cette résistance.
Alors donc, l'itinéraire, je vous propose qu'on aille voir le terrain.
Oui.
Hi. Vous pouvez aussi demander, poser vos questions, parce que Shimizu, il est le secrétaire général de l'association des habitants de l'île de Iwaishima.
Shimizu.
Hi. Donc il connaît très bien le dossier.
Oh!
Alors voyez, malgré son apparence, il fait partie de la minorité des élus qui sont opposés au projet.
Allez, on y va? Allez, allons-y. Voilà, on est dans ce bateau, on est dans un paysage absolument magnifique.
Voici tout ce que vous voyez, c'est notre village.
Ouais, quand on arrive comme ça, de loin, on voit l'île et la partie village est juste regroupée là, en bas. Et après, il n'y a plus d'habitation. Et là, on parcourt les 3,5 km à peu près qui séparent l'île de nos amis de l'île sur laquelle cette centrale risque d'être construite un jour. Et ça, c'est le point fixe. Tout le village de nos amis a les yeux fixés sur ce terrain. Mais, encore une fois, ils tiennent bon.
Regardez, c'est là-bas.
Ah d'accord, là on voit très très bien le terrain. Voilà, on arrive doucement, hein. petits. Hop, des petits oiseaux. Des poissons qui sautent là-bas, le long de la côte, il y a des poissons qui sautent. Et des collines verdoyantes, absolument sauvages, des arbres en fleurs. Et puis là, dans ce creux de vallon, cette plage, eh ben, il y a un projet de centrale nucléaire comparable à celle de Fukushima. Il y a des explorations qui sont faites, là, il y a un chantier pour évaluer les risques de construction.
Alors depuis le 11 mars, après l'accident de Fukushima, l'accord de construction de la part du maire de la ville et aussi du préfet a été annulé. Donc une partie de travaux a été suspendue.
Suspendue ou interrompue définitivement ?
Pour l'instant, c'est qu'une suspension.
Oui.
Alors, ce que vous voyez ici, c'est le sondage du sol. Mais avant le 11 mars, ils étaient en train de construire des digues en béton, d'abord autour, sur la mer, pour pouvoir mettre la terre à l'intérieur.
Pour faire du remblai.
Pour faire du remblai. Et ensuite construire la centrale. Donc, pour empêcher ces travaux-là, plusieurs bateaux de pêcheurs étaient présents pour faire empêcher d'entrer des bateaux de travaux.
D'accord. Et ça,
Ces travaux ont été suspendus.
Et les bateaux de pêcheurs qui ont empêché la construction des remblais et de l'avancée en béton, c'est vous. C'est ce bateau-là, non? C'est celui à bord duquel nous sommes. Voilà.
Bien sûr. Voilà notre ami. Il était le premier à participer.
Voilà. Alors, bien sûr, en ce moment, à cause de Fukushima, tout ça est suspendu. Bon, parce que c'est vraiment trop gros. L'émotion est trop terrible. On ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. Il y a des gens qui craignent quand même pour leur poste, pour leur entreprise. Mais enfin, bon. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est définitivement abandonné quand on voit les investissements formidables qui ont déjà été faits.
Je pense que c'est possible. Oui, il faut faire annuler ce projet parce que nous avons passé tellement de temps. Et si ce projet se réalise, alors je me demanderai qu'est-ce que c'était mes 30 ans passés sur le mouvement de contestation.
30 ans à lutter.
Mais ça continue. Ce n'est pas encore, on n'est pas encore arrivé au bout.
Voilà, on arrive. Hop là. Arigato. Ouais, on est allé jusqu'à l'île là-bas. Ça va le scooter là?
Oh, ça fait 10 ans.
Vous êtes
83 ans, mais je sais.
Oui, super, ça sent scooter à 83 ans, allez hop.
I love you, 言うんだ、ちっちゃいだけにね。それでもないよ。それ、これ、アメリカ、これ、あんた、今のあんた、アメリカじゃろうが。
Je comprends pas le français, mais je sais dire en américain, I love you, voilà.
Ouh, ouh, ouh. I love you.
I love you.
I love you, ce qu'il y a,
c'est bien pour un gars en scooter.
C'est juste tout ce que je connais.
C'est, mais c'est le principal. Et comment on dit I love you en japonais?
Alors toi, t'es tombé amoureux de moi.
C'est ça ce qu'on dit.
Voilà, tant mieux alors si vous avez
bien fait de visite.
Mon mari, il revient, il faut que j'aille chercher.
Ah oui. Merci à tous les habitants d'Iwaishima, merci à notre traductrice Yoriko Nishinaka, montage Marina Tuyez et Agnès Lebot. C'était un reportage avec Guy Vangtil. Merci à Yamato Sadao, Kyusuke Sasaki, Shimizu Toshiasu et Monsieur Isobe. Merci aussi à Anthony Dufour et à Colin Kobayashi. Merci à tous. Demain, escale à Paris pour le très attendu tribunal des condamnés d'avance. Première partie demain, diffusion du procès de DSK à 15h dans la basse, si j'y suis. On a beaucoup parlé de résistance aujourd'hui. Eh bien, samedi et dimanche sur le plateau des Glières, ce sera les paroles de résistance. Et pour notre part, nous y serons le samedi soir, repère des repères de la basse, si j'y suis, à Torrent-Glières, ça s'écrit Torrens-Glières, et c'est à une petite demi-heure d'Annecy. Donc on se retrouvera là si vous voulez bien. Il y aura à la fin de la soirée une possibilité d'hébergement si vous voulez dormir dans un lycée voisin pour, si vous voulez, profiter de cette offre. Eh bien vous devez le faire savoir sur un mail qui s'appelle là-bas aux Glières, là-bas. Au Glières, là-bas comme là-bas si j'y suis, au pluriel, Glières, avec un S, là-bas au Glières tout attaché, @gmail.com. Et dans ce mail, vous précisez, nous viendrons dormir à 1, 2, 3, 4. Et vous indiquez aussi que vous êtes d'accord pour participer, il y a une petite dépense pour vous transporter en autocar jusqu'à ce lieu d'hébergement. J'espère avoir été clair. Vous retrouvez en tout cas toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez aussi la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org,
et nous écrire des commentaires toujours précieux. Et bienvenue à la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Defar Guérine, Coy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebotte et Marina. Attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 réclame.
Tous les dimanches, jogging. Ah mais j'en ai eu marre de courir dans le même parc. Alors maintenant, je varie. Central Park, la Grande Muraille de Chine, les Maldives, même si c'est quand même un peu petit. Hein. Ah mais le mieux, c'est le Mexique. Je cours sur les marches des temples mayas comme ça, et ben en même temps, je fais du step.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Et maintenant, tirage Euromillion le vendredi et le mardi. Ce mardi, super jackpot de 100 millions d'euros. Montant à partager au rang 1, voire règlement.
FDJ, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Paul, lâche ta sœur et va prendre ton bain. Léa, en pyjama, sinon on n'aura pas le temps pour une histoire. Maman va bientôt rentrer, alors on est sage.
Maman!
Alors, tout va comme tu veux?
Ah non, j'en peux plus. Oh, je vais faire ma télédéclaration, tiens, ça va me détendre. Ça au moins c'est facile.
Déclarer ses revenus sur impots.gouv.fr, c'est simple, rapide et sécurisé. La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Et voilà, une bonne chose de faite.
Ceci est un message du ministère chargé du budget.
France Inter, partenaire de l'exposition Odilon Redon, Prince du rêve, jusqu'au 20 juin, aux Galeries Nationales du Grand Palais. Plongez dans l'univers fascinant d'Odilon Redon, grand artiste du mystère et du songe. Peinture, pastel, fusain et dessin retracent l'évolution saisissante de son travail. Du noir à la couleur, de l'ombre à la lumière. Retrouvez l'exposition Odilon Redon dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Un petit peu plus de 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse où j'y suis. N'oubliez pas, c'est le procès de DSK demain dans la basse où j'y suis. Donc, rendez-vous à 15h. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Point. Salut!
Et on commence avec cette information qui nous parvient à l'instant. Le parquet belge a donné son feu vert à la libération conditionnelle de l'ex-femme de Marc Dutroux, le pédophile. Cette femme a purgé la moitié de sa peine, 15 ans. Elle avait été condamnée à 30 ans de prison pour avoir laissé mourir de faim deux des petites victimes de son époux. L'enquête sur l'attentat de Marrakech avance assez vite. Trois nouveaux suspects ont été interpellés au Maroc, des personnes qui n'ont pas eu une part active dans cette attaque sanglante qui a tué 17 personnes, mais qui étaient au courant du projet. La semaine dernière, la police avait arrêté trois autres suspects, dont l'auteur présumé de l'attentat. En France, sept personnes ont par ailleurs été interpellées ce matin dans les milieux islamistes, mais la police s'affirme qu'il n'y a pas de lien avec l'explosion de cette bombe à Marrakech. Certains de ces jeunes sont soupçonnés d'avoir fait des allers-retours avec les zones tribales du Pakistan où ils s'entraînaient au djihad. Rien n'indique qu'il s'apprêtait à commettre un attentat en France, c'est ce que précise Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. En Syrie, le régime continue de souffler le chaud et le froid. Cinq figures de l'opposition ont été libérées hier soir et ce matin, dont l'avocat Hassan Abdelazim et l'écrivain Fayez Sara. En France, les résultats de l'enquête de la Fédération française de football sur l'affaire des quotas. Patrick Brauzek, membre de la commission d'enquête, a tenu un point de presse en début d'après-midi, au cours duquel il a pointé une faute, celle d'André Prévosto, directeur général adjoint de la FFF, qui aurait dû transmettre à sa hiérarchie l'enregistrement de la fameuse réunion du 8 novembre. La commission qui estime qu'aucun élément matériel ne démontre une politique de quotas. Ce matin, le ministère des Sports avait annoncé qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire dans cette affaire. Quant à d'éventuelles sanctions, elles pourraient être décidées demain lors du Conseil fédéral extraordinaire de la Fédération française de foot. Après la défection d'Olivier Besancenot, le nouveau parti capitaliste doit lui choisir un successeur qui aura la lourde tâche de représenter le parti pour la présidentielle de 2012. Olivier Besancenot a fait part de sa volonté de redevenir un simple militant et son successeur sera soit Christine Poupin, soit Myriam Martin, toutes deux porte-parole du parti. C'est ce qu'indique Sandra Demarque, membre de la direction du NPA. Bruno Gollnisch perd son immunité parlementaire européenne. Les eurodéputés l'ont voté à une large majorité, ce qui leur a valu d'être traité de minable par l'élu du Front National. L'ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen fait l'objet d'une plainte pour incitation à la haine raciale en France, une plainte qui vise un texte insultant l'islam et qui avait été publié en 2008 par son groupe politique au Conseil régional de Rhône-Alpes.
Ce soir, à 20h,
Omara Portuendo et Chucho Valdés seront en concert sur France Inter.
En avant-première française, Omara Portuendo, la grande dame de la chanson cubaine, star du Buena Vista Social Club,
et Chucho Valdés, la figure du jazz cubain, vous invite à un concert événement en direct et en public du Studio 105.
Omara Portuendo et Chucho Valdés, un concert exceptionnel à suivre sur France Inter.
Ce soir, à partir de 20h, France Inter. France Inter.
La différence.
16h04, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Donc, évidemment, notre cher chevalier de Saint-Georges sera encore mis en avant. Chevalier de Saint-Georges, né à la Guadeloupe, à Basse-Terre, d'un père qui était contrôleur général, d'une esclave, une très très belle femme noire, et lui-même était un athlète de plus d'1m80, qui jouait du violon divinement, qui savait se battre à l'épée, qui était un grand séducteur, un homme très raffiné aussi. Bref, le rival de Mozart à Paris, notamment, je vous propose d'entendre tout de suite l'Allegro d'une sonate, la troisième, pour violon et clavier du chevalier de Saint-Georges. Thank you. Allegro de la troisième sonate pour violon et clavecin, dans ce cas-là, un clavier en général, enfin, c'est le clavecin qui est utilisé, évidemment, au XVIIIe siècle, de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, interprété par Brigitte Audebourg au clavecin, Jean-Jacques Kantoroff au violon. Donc, le chevalier de Saint-Georges, magnifique mulâtre, a été protégé par son père, qui était puissant, sa mère aussi, évidemment, tirée de l'esclavage, et quand même, il a connu des ennuis, puisque, remarqué par la jeune reine Marie-Antoinette, le chevalier de Saint-Georges avait reçu, en principe, le titre de directeur de l'opéra royal. Mais il y a eu une violente polémique raciste et la souveraine a dû renoncer. Mais oui.